Nous ne nous sommes pas concertés, Nicolas et moi, mais nous avons choisi de lire le même texte. Un texte particulièrement important, puisque ce sont des paroles de Jésus. Je les relis. Dans Matthieu au chapitre 5, les versets 38 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs des taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quand je me suis converti, c'est parce qu'on m'avait appris, que j'ai découvert, que Dieu nous sauvait de nos péchés. Et ce qui m'intéressait, c'est que Dieu nous invitait à une autre vie. Parce que la mienne ne me satisfaisait pas tellement. Et que je cherchais quelque chose qui ait du sens. Quelque chose qui ait du sens. Et j'ai lu ce texte, parce que j'ai lu l'Évangile, mais sans plus, ça ne me touchait pas particulièrement. Parce qu'on ne m'avait pas appris clairement que Dieu nous sauvait pour faire de nous des disciples de Jésus-Christ. Je lisais ce texte, et puis... ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Je ne me posais pas trop de questions, probablement par un phénomène que les savants appellent la dissonance cognitive. La dissonance, vous voyez ce que c'est? Par exemple, si vos deux musiciens ne jouent pas du tout la même chose, ça va faire mal aux oreilles. Hein, une dissonance. C'est quoi la dissonance cognitive? C'est quand on lit quelque chose de tellement différent que ce qu'on a toujours pensé, que c'est comme si on ne l'avait pas lu. Le cerveau n'accroche pas. Vous voyez ? Eh bien, il y avait ce phénomène quand je lisais ce genre de texte. Et puis, tantôt, en groupe, on en parlait, évidemment. Et alors, on disait des choses qu'on dit d'ailleurs, qu'on trouve d'ailleurs dans des livres de théologie. Ouais, Jésus, il a dit ça pour montrer à quel point on était des pécheurs et à quel point on a besoin du pardon. Luther dit ça, par exemple, hein, et les théologiens luthériens. C'est pas vraiment, c'est un truc qui nous montre à quel point on est pécheurs, mais c'est pas vraiment un truc qu'il faut apprendre à faire. Vous voyez ? Et petit à petit, dans mon cheminement personnel, j'ai petit à petit commencé à comprendre que Jésus nous appelait à être ses disciples. Qu'il n'était pas seulement mort pour nos péchés, mais aussi pour nous racheter de notre vaine manière de vivre, comme dit un verset de l'apôtre Paul. Et que son amour, ce n'était pas seulement nous sauver de la mort, mais que son amour, c'était aussi de nous proposer une manière de vivre beaucoup plus intéressante, riche et vraie. Et qu'on ne pouvait pas séparer les deux. Et donc, petit à petit, ces versets sont revenus. Et avec une autre manière de les lire, avec une autre manière de s'y coller, si je puis dire. Et au début, ils sont un peu comme le sparadrap du Capitaine Haddock. On aimerait s'en débarrasser, mais vous voyez. Puis comme c'est les paroles de Jésus, on ne peut pas juste les mettre à la poubelle, quoi. Ça pose beaucoup de questions. Ça me posait beaucoup de questions à l'époque. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai cheminé avec ces versets et avec l'ensemble de ce que Jésus demande à ceux qui veulent être disciples. Et c'est compliqué de cheminer avec des versets pareils tout en ayant une vie personnelle assez éloignée quand même. Ce qui nous embête, c'est la tension entre ce que Jésus nous demande et ce que nous sommes. Mais cette tension, elle fait partie de notre vie. Et ça peut être une tension féconde, créatrice, qui nous met en route, si on accepte de la vivre. Mais si on n'aime pas les tensions, et si on préfère être toujours tranquille, alors on les met de côté. Puis on fait comme s'ils n'étaient pas vraiment là. Vivre la tension qu'il y a dans le fait de connaître ces versets, de croire que Jésus les a dit pour nous, et se rendre compte à quel point on peut être éloigné de cela. Mais au fil du temps, des choses sont devenues plus claires pour moi. Et d'abord, petit à petit, et en devient plus évident, même si on est encore loin de le comprendre, c'est l'ampleur de l'amour de Dieu. L'ampleur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement différent du nôtre. Mais on a vite tendance à le réduire à notre propre expérience de l'amour. Mais l'amour de Dieu, c'est tellement différent. C'est tellement autre chose. Un amour qui s'adresse aussi aux ennemis. Dieu aime ceux qui le refusent, qui le méprisent, qui crachent sur son nom. C'est bien de le savoir, mais c'est pas si simple que ça rentre dans nos cœurs et dans nos têtes. Un amour tellement incroyable, mais qui pourtant est le secret de notre texte. Aimer son prochain, et aimer son prochain quel qu'il soit, quelle que soit la manière dont il se comporte avec nous. Et donc aimer même ceux qui sont nos ennemis, ceux qui nous embêtent, ceux qui nous cassent les pieds, ou ceux qui nous ont fait un sale coup. Dieu est comme ça, et il aimerait qu'on soit comme ça nous aussi. Et ça donne un peu le vertige, cet amour-là. Et on met du temps à petit à petit s'habituer à cet amour-là et à y entrer. Même si on n'y arrive pas tout à fait, encore. Le même vertige que probablement a ressenti l'apôtre Pierre quand il a demandé « Combien de fois je dois pardonner à mon frère ?» Et quand il dit « mon frère », c'est-à-dire celui qui est disciple avec Jésus, avec moi, hein, c'est pour ça que c'est pour... mon frère, c'est un des 11 autres, plus tous ceux qui ont suivi Jésus. Alors, cette fois, c'est plus que raisonnable, c'est carrément héroïque, cette fois, dans sa tête à lui. Hein. Et Jésus fait exploser les calculs avec sa réponse, de 77 fois cette fois. Et on a le vertige devant cette parole. Elle nous attire et en même temps, elle peut nous faire peur. C'est pourquoi nous avons besoin de réaliser et de vivre l'amour de Dieu. Pour commencer à comprendre que c'est possible des paroles pareilles et que c'est peut-être possible aussi de commencer à essayer de les vivre. Nous avons besoin que cet amour de Dieu nous touche et nous mettre en route. Peut-être ce qui va nous aider, c'est nous rendre compte que Dieu nous aime ainsi, et heureusement qu'il nous aime ainsi. Si Dieu calculait le nombre de fois, ou fixait une limite au nombre de fois qu'il nous pardonne, je ne sais pas si on serait nombreux encore ce matin à être ici. Et c'est important de réaliser ça. Que nous vivons de cet amour-là, Dieu, nous vivons cet amour de Dieu, illimité. Et peut-être que si on le réalise un peu mieux, ça nous aide à mieux comprendre ses paroles, ses commandements qui s'adressent à nous, pour aimer notre prochain, quel qu'il soit. Il y a quelque chose qui se joue profondément dans notre relation au Seigneur et qui nous libère petit à petit pour être nous aussi, pour entrer nous aussi dans cette circulation de l'amour. Cette circulation de l'amour. Cette circulation de la grâce. Le texte aussi, nous pouvons le mettre, nous pouvons être tentés au début en tout cas de laisser ce texte de côté, parce qu'après tout, la violence, il y en a beaucoup dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, et on a l'impression que Dieu n'est pas forcément toujours contre. Vous voyez ? Après tout, Dieu, il s'arrange pour que les ennemis du peuple meurent, et parfois à haute dose. Le monde nous parle de la violence et de la victoire sur la violence en disant « il y a une bonne violence qui chasse la mauvaise violence ». Vous voyez, c'est le western où le bon tue les méchants et après tout va bien. C'est la Seconde Guerre mondiale, on gagne contre les Allemands, on est les bons, eux sont les méchants, et après tout va bien. Racontez pas ça à un Polonais, hein. Parce que ça, il prend pas. Pour lui, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'avoir été vendu aux Russes. Pour vous dire que notre regard à nous, il est orienté d'une certaine manière. Et si vous regardez un peu comment ce que les autres pensent, eh ben vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas du tout la même perception que nous. Que quand on a fêté les 60 ans en grande pompe de la victoire sur les nazis en 2005, eh bien un certain nombre de chefs d'État occidentaux ont été surpris que ceux des pays de l'Est n'étaient pas du tout partants pour faire la fête avec eux. Parce que pour eux, ça ressemblait plus à une catastrophe. Ils ont pris 40 ou 50 ans... d'oppression soviétique, ce n'est pas forcément une grande nouvelle pour eux. Mais nous, on nous vend tout ça comme un espèce de conte de fées où voilà, merveilleusement, on a gagné contre les mauvais et après tout allait bien. C'est un peu plus compliqué que ça. L'histoire de la bonne violence qui chasse la mauvaise violence, c'est une manière que le monde nous vend ça, et notamment dans les films américains. Je lisais un article où on disait une des caractéristiques du cinéma américain, c'est qu'il s'invente des ennemis dans les films, hein. Les Indiens, puis les communistes, puis je sais pas, maintenant les terroristes. Mais ça marche pas comme ça. Alors on a l'impression de retrouver ça, par exemple, avec David et Goliath, hein. Ouais, la bonne violence qui chasse la mauvaise violence. Mais nous avons besoin de revenir à Jésus et de corriger notre compréhension des choses à partir de Jésus et de lire l'Ancien Testament à partir de Jésus. Et de la même manière que Jésus dit qu'il ne veut pas de répudiation, qu'il ne veut pas de divorce, et que même si Moïse vous a autorisé à écrire des lettres pour jeter votre femme dehors, lui, il ne veut pas de ça. De la même manière, pour la violence, en disant ce que nous avons lu dans Matthieu 5, il met à la poubelle toutes les compréhensions mauvaises ou fausses qu'on pourrait avoir de l'Ancien Testament. Et c'est important de le réaliser. C'est important que nos idées soient claires. Parce que sinon, on a vite fait d'interpréter dans le sens qui nous arrange. On est très fort pour ça. Enfin, je n'ai pas besoin de nous en raconter, on a tous fait ça. Donc, on a besoin de se laisser corriger. Et parfois, c'est difficile, parce que ça peut être radical. Par des paroles de Jésus comme celles que nous avons lues ce matin. Alors, concrètement, comment pouvons-nous avancer ? On est d'accord avec Jésus, on est d'accord qu'il faut devenir comme il nous le dit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je voudrais proposer quelques pistes de réflexion, juste quelques débuts de pistes. Mais la première, et c'est la première dans tous les cas, parce que si on ne passe pas par celle-ci, on va avoir du mal avec les suivantes. La première, c'est de reconnaître que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, habités par une certaine violence. Et que les violences, ce n'est pas les autres seulement. Il y a quelque chose en nous qui colle, qui ne marche pas bien. Alors c'est différent suivant notre tempérament, c'est différent suivant notre histoire personnelle, c'est différent suivant notre éducation, c'est différent suivant notre histoire, nos expériences. Mais il y a une réalité de la violence en nous, qui peut aller du simple, comment dire, du fait de ne pas faire attention aux autres, comme si on était seul au monde, jusqu'à des choses un peu plus brutales. Mais chacun d'entre nous, à sa manière, est habité par des formes de violence. Et c'est important de regarder ça en face, d'essayer de regarder ça en face pour commencer à avancer. Parce qu'on n'est pas tous, entre guillemets, malades de la même manière, de la violence. Et donc chacun de nous doit voir comment lui il est atteint, pour pouvoir réagir et agir sur sa propre vie. Vous savez, on peut regarder ce qui ne va pas dans notre vie, paisiblement, et non pas pour entrer en dépression, mais paisiblement, quand on sait que Dieu nous aime. Et il nous aide à nous regarder dans la glace, dans une glace pas trop déformante, parce qu'il nous aime, comme on est. Une deuxième piste, c'est de repérer les conditionnements dans lesquels nous sommes pris. Par exemple, nous sommes fascinés par la violence. Fascinés par la violence. C'est pas pour rien qu'il y en a dans les films, parce que ça fait vendre les films. C'est pas pour rien qu'il y a des jeux vidéo violents. Et je suis toujours frappé de voir qu'il y a des jeux. Aujourd'hui, on sort des jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Pour dire que c'est pas seulement pour les jeunes. Je trouve ça sidérant. Et interdit au moins de 18 ans à cause de la violence, et pas à cause d'autre chose. Régulièrement, à la télé, vous voyez des pubs pour ce genre de trucs. Mais ça marche, ça se vend, on en veut. D'où ça vient qu'on est fasciné par cette violence? D'où ça vient que ça nous passionne à ce point? Il y a probablement une forme d'éducation, mais il y a quelque chose de plus que ça. Quelque chose en nous accroche. Quelque chose en nous se repaît de la violence et des images de violence. Et parfois, c'est comme d'autres produits, il nous en faut toujours plus, toujours plus fort. Alors, le conditionnement auquel nous sommes pris, c'est souvent aussi les idées, hein, comme ce principe qu'il faut une bonne violence pour chasser la mauvaise violence. C'est pas vrai. Ça marche pas. Le nombre de fois où on s'est dit on fait la guerre, c'est la dernière, après on est tranquille. Pour recommencer une ou deux générations après, on devrait déjà nous l'apprendre. Hein. C'est pas seulement après la Première Guerre mondiale qu'on a dit c'est la dernière. Hein. On l'a dit à toutes les époques. Mais ça marche pas. On arrive à gagner des guerres, on n'est jamais arrivé à gagner de vraie paix. Pour longtemps. Alors, peut-être avec la communauté européenne, nous avons de la chance actuellement. Mais ce n'est pas non plus tout à fait pour rien que parmi les pères de l'Europe, il y avait un très grand nombre de croyants, comme Maurice Schumann. Et que ça a aussi été réfléchi dans une optique, avec des gens qui prenaient au sérieux l'Évangile. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça tient encore. Quand j'étais enfant, j'aimais l'histoire. J'aimais beaucoup l'histoire. J'aime toujours l'histoire. Et qu'est-ce qu'on fait dans un certain nombre de cours d'histoire, en tout cas à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui, où nous vendait les héros. Vous voyez, les héros. Et c'était qui les héros de l'histoire? C'est Napoléon, c'est Alexandre, c'est... Vous voyez, c'est celui-là, quoi. Les conquérants. Jeanne d'Arc, éventuellement, les conquérants. C'est les gens qui avaient gagné des guerres. On ne nous disait pas combien de morts ça faisait, parce que ça passait à la poubelle, hein. Et on nous vendait une image de la gloire, de la majesté, de la grandeur, tagada, tagada. Et ça m'a beaucoup habité longtemps. Et ce qui m'a débarrassé de ça, c'est de dire l'évangile. Et de me rendre compte que Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, ce genre de gloire, ça ne l'intéresse pas. Ce genre de puissance, ça ne l'intéresse pas. Écraser ses ennemis et avoir des montagnes de cadavres, ça ne le passionne pas. Lui, il aime ses ennemis. Lui, il préfère quand on se convertit. Il y a plus de joie au ciel quand quelqu'un éloigné de Dieu revient à lui que quand on remporte une victoire avec les montagnes de cadavres. C'est intéressant, j'ai mis beaucoup de temps. C'est une expérience d'une quinzaine d'années peut-être. Mais si nous lisons l'Écriture, elle nous aide à voir les choses autrement et elle nous invite à repenser notre éducation et nos conditionnements, à repenser nos idées et à corriger nos idées. Il faut qu'on soit d'accord. C'est pas toujours très confortable de changer d'idée, surtout quand elles sont là depuis très longtemps. Mais en même temps, c'est passionnant, parce que ça nous donne de la liberté, ça nous fait grandir. Nous avons pas mal d'idées fausses sur la violence, sur la manière dont on vit ensemble, dont on met de l'ordre, dont on arrive à avoir de l'ordre dans notre vie sociale. Il y a pas mal d'idées qui sont fausses et qui ont besoin d'être corrigées par l'Évangile. Nous avons besoin de changer notre regard sur la réalité, sur les choses, sur la création. Sur la création. Jésus m'invite à voir les autres comme des personnes à aimer, avec qui construire, les autres chrétiens à qui construire l'Église, et puis avec les autres, tous les autres à construire une vie collective, une vie sociale, d'une manière positive. Jésus m'invite à voir les autres comme des personnes qui peuvent m'aider et que je peux aider, que je peux rencontrer plus profondément pour bâtir ensemble une manière de vivre collective. Alors que souvent autour de nous, les autres peuvent être perçus comme parfois des concurrents. Quand je suis en médecine et qu'il y en a d'autres et qu'on fait un concours à la fin. Quand on est 5 à chercher, quand on est 50 à répondre à la même offre d'emploi et qu'on cherche du boulot, comment est-ce qu'on voit les 49 autres ? J'ai un fils qui cherche du travail. Et donc c'est intéressant parce que il a postulé, il est arrivé assez loin dans les démarches et finalement quand il restait plus que 4 ou 5 parmi lesquels il fallait choisir la bonne personne, il n'a pas été pris. Quel regard on a les uns sur les autres dans un monde qui nous met en concurrence, qui nous dit qu'il faut être le meilleur, le plus fort, le plus beau, le plus je sais pas quoi. Comment est-ce qu'on voit les autres? Quel regard on a sur eux? Est-ce qu'on se rend compte que le monde nous offre un certain nombre de discours et nous met en tête un certain nombre de choses et que ces choses-là sont peut-être pas forcément ou sont rarement semblables à ce que l'Évangile nous dit? Le monde nous dit être adulte, être fort, c'est n'avoir besoin de personne. Vous sentez ça? Vous sentez ça dans les discours du monde? Besoin de personne. C'est ça être un adulte. Eh bien, l'Évangile dit complètement autre chose. Et ces perceptions, besoin de personne, où les autres sont les concurrents, etc., ont à voir avec la violence et la manière dont on vit les uns avec les autres, dont on s'accueille ou dont on se méfie les uns des autres. Cette question de la violence, cette question que soulève Jésus, ce qu'il enseigne dans Matthieu 5, elle touche énormément de dimensions de notre vie. La question de la violence, ça pose aussi le regard qu'on a sur Dieu. Est-ce que nous pensons que Dieu est un juge qui attend le bon moment pour juger et condamner tout le monde, tous ceux qui ne sont pas convertis? Ou est-ce que nous pensons que Dieu est un Père qui attend, qui appelle et qui attend qu'on revienne à lui, comme dans la parabole du Fils prodigue? Comment on voit Dieu? Comment on voit Dieu? Jésus choquait beaucoup les pharisiens notamment, mais aussi d'autres juifs, par sa manière de faire. Jésus avait des disciples parmi les péagers, qui étaient des gens de mauvaise vie. Jésus se laissait approcher par des prostituées, comme celle qui a pleuré à ses pieds. Et les gens disaient, mais un homme de Dieu, il fait pas ça. Si c'est vraiment un homme de Dieu, il saurait quel genre de nana c'est cette fille, hein, vous vous rappelez, dans la parabole. Ces gens avaient une image de Dieu très différente. Et Jésus avait choqué les pharisiens, il a choqué ses disciples aussi. Dans un village des Samaritains où ils n'ont pas été accueillis pour la nuit, Jésus et ses disciples se retrouvent et Jacques et Jean disent « Veux-tu qu'on demande au feu du ciel de raser ce village ?» Ouais. Parce que c'est comme ça que... Et vous rappelez, Élie a fait comme ça déjà, et puis Sodome et Gomorre, et puis je ne sais pas quoi. Ils avaient une image de Dieu qui était complètement fausse, ces disciples-là. Les disciples d'Emmaüs avaient espéré que Jésus chasse les Romains, l'épée à la main, évidemment. Et puis les morts crucifiés, c'était pas le bon, c'était la mauvaise fin du scénario pour eux. Parce qu'ils raisonnaient dans les catégories habituelles de la libération et du salut. Et nous avons besoin, nous aussi, régulièrement, de purifier notre compréhension des choses pour qu'y entre ce que dit l'Écriture. Une autre piste, c'est qu'on peut apprendre d'autres comportements. On peut apprendre d'autres comportements. On peut apprendre à ne pas réagir comme on réagit depuis toujours. On peut apprendre à une certaine maîtrise de soi. On peut apprendre à communiquer autrement. Je peux avoir une discussion avec, je sais pas, Christian, là, il est Christian Vanier, voilà. On se connaît bien. Alors. Et je peux lui dire, j'écoute Christian parler, et je lui dis, Christian, c'est complètement nul ce que tu penses. Et je peux lui dire, ah ben moi j'ai un autre point de vue sur ce que tu dis. Vous voyez? C'est pas compliqué, hein? Je dis la même chose, dans le fond, mais d'une manière très différente. Et dans mon tempérament, parfois, j'ai plutôt envie de dire, c'est nul ce que tu racontes. Vous voyez? Mais je peux aussi m'obliger, je peux apprendre, et il faut de la discipline pour ça, à dire les choses avec d'autres mots. C'est tout simple, hein. Mais si on le fait, ça change pas mal de choses déjà, dans nos familles, dans nos églises, dans... Ouais, je pense autrement que toi. J'ai pas besoin de dire que t'es bête de penser comme tu penses. On peut apprendre à repérer ses émotions, à travailler ses émotions, à demander à Dieu de les travailler aussi, peut-être même de les guérir, pour que notre maîtrise de soi augmente, notre liberté augmente. Parce que la maîtrise de soi, c'est un autre mot pour la liberté. Une autre expression. Au centre médical de Bruxelles, une femme a travaillé pendant 18 ans avec des enfants, puis elle a écrit un livre pour éduquer les 8-12 ans à la paix. Le titre, c'est « Activité pour une éducation à la non-violence, activité pour éduquer les 8-12 ans à la paix et à la transformation des conflits ». Je vous en parle juste pour vous donner les 6 grands chapitres de ce livre. Le premier, c'est « Les autres et moi ». Comment on se voit, comment on se perçoit. Deuxièmement, « Les émotions et le corps ». Troisièmement, « La communication, un outil clé ». Quatrièmement, « Le conflit et nos réactions dans le conflit ». Cinquièmement, transformer les conflits. Et sixièmement, coopérer. La coopération, la solidarité. C'est pour les 8-12 ans, mais je peux vous dire, je peux dire à tous les adultes ici, si vous le lisez, vous apprendrez des choses. Hein, pas de souci. Enfin, ce qui peut nous aider aussi pour d'autres comportements, et je vais bientôt arriver à la conclusion, c'est de regarder Jésus. L'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, chapitre 2, il dit « Prenez exemple pour Jésus. Lui qui était frappé et dont on se moquait, il n'a pas riposté. Il n'a pas riposté. Et c'est un exemple pour nous, il dit. Dans ce village des Samaritains que les disciples voulaient raser, Jésus leur dit « Pas question, vous n'avez rien compris. » Ce que Jésus enseigne sur le pardon, c'est la circulation de la grâce. L'attitude de Jésus dans son refus de se défendre, quand il est arrêté. Jésus avec la femme adultère. Jésus nous apprend des choses intéressantes dans ce texte. Il y a beaucoup de violence dans ce texte. Hein. Oui, il y a une foule violente. Alors, une foule violente, c'est infiniment pire qu'un homme violent ou une femme violente. Hein. Quand c'est la foule, ça craint beaucoup. Hein. Il y a une foule, il y a beaucoup d'émotions, c'est une question d'adultère et de machin. Tous ces bonhommes sont là, ça les stresse. Et la loi dit qu'il faut lapider de telles femmes. Alors c'est intéressant de voir comment Jésus fait devant une foule en colère. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde sur le sol et il trace des trucs. Alors on se dit tous, mais qu'est-ce qu'il a écrit ? En fait, on s'en fout, parce que pour le texte, c'est pas important, mais d'un coup, les gens, ça calme les gens, en fait. C'est tout bête, hein, mais ça calme un peu les gens. Les gens, qu'est-ce qu'il fait, là ? Et l'attention se déplace de la femme vers Jésus, en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Puis après, à un moment, Jésus leur dit, mais... Il se relève et il dit que celui qui l'a jamais péché jette la première pierre, et puis hop, il se rebaisse à nouveau. Parce que lui, il ne veut pas entrer dans le tête-à-tête avec la foule, vous voyez. Parce que s'il se levait en disant « Eh, vous faites quoi, vous, les gars ?» La tension aurait monté de quelques mètres de plus. Mais Jésus, il adopte ce qu'on appellera plus tard des techniques d'action, d'attitude non-violente. Il fait baisser la tension. Et il refuse d'en garder les gens pour se battre avec eux en disant « Vous pensez ça, moi je pense ça, et boum, quoi. » Vous voyez. C'est très intéressant dans le texte. Et il a une parole de sagesse, évidemment, ça... Ça serait bien qu'on en ait tant de temps aussi. Il a une parole de sagesse incroyable. Et vraie, réaliste, adaptée à la situation, qui renvoie les gens à eux-mêmes. Mais voilà, de telles attitudes, ce que Jésus a fait là, ça tombe pas du ciel. Ça s'apprend, ça se travaille. Ça s'apprend. On peut apprendre beaucoup de choses sur la gestion de la tension, de la violence, des conflits. Il existe en plus beaucoup de matériel aujourd'hui. Et donc, je pense que ces paroles de Jésus que nous avons lues devraient nous aider à nous mettre en route dans la communion avec lui pour être des personnes qui font face à leur propre violence et qui deviennent petit à petit acteurs de paix, comme ça nous est demandé. La violence, c'est... Renoncer à la violence, c'est grandir dans l'amour. C'est grandir dans l'amour. C'est aussi un chemin, ça sera mon dernier mot, c'est un chemin qu'il vaut mieux faire ensemble. On s'entraide. On s'entraide. On discute. On se raconte nos expériences, bonnes ou mauvaises, mais elles peuvent nous apprendre quelque chose. On prie les uns pour les autres. On va ensemble, dans un séminaire ou je ne sais pas où, apprendre des choses sur comment se comporter dans les conflits, comment progresser dans nos actions dans les conflits. À plusieurs, c'est génial. Tout seul, c'est lourd. Mais c'est plus sympa à plusieurs. Et voilà comment nous pouvons prendre au sérieux cette parole de Jésus et la laisser porter du fruit dans nos vies. Amen.